original, soyez les bienvenus avec Leïla Kadouboulami.
Bonjour à tous.
Salut ma ville là.
Bonjour.
Frédéric Siniste.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour.
En live tout à l'heure, il y aura Ayo. Oh. Et nos invités sont Arthur Dupont et Jean-Pierre Bacri. Eh ouais, Ayo sera là. Quand j'ai dit à Jean-Pierre Bacri, il a même chanté du Ayo devant moi, a cappella. C'est très impressionnant.
C'est bien, hein.
Vous êtes content. Elle est jolie en plus.
Elle est très jolie.
Elle
chante bien.
Elle a beaucoup de talent. Ravi de vous accueillir.
Comme dire mon texte. Hein.
Tous les deux. Ravi de vous accueillir pour parler de Grand Froid. Nous avons vu le film. Nous l'avons aimé. Je suis pas sûr que Tom Villa, lui, ait bien compris les raisons pour lesquelles nous avons invité Arthur Dupont et Jean-Pierre Bacri.
Déjà, c'est ma dernière de la saison, donc je pensais qu'on aurait prévu un truc comme à l'école, qu'on ferait, je sais pas, des jeux de société, des coloriages, qu'on amènerait des gâteaux.
Mais...
En tout cas, quel plaisir de faire ma dernière de la saison avec Arthur Dupont et Jean-Pierre Bacri. Donc voilà, comme l'a dit Nagui, vous venez pour le film Grand Froid. Alors avec le temps qui fait en ce moment un peu bizarre, c'est comme recevoir Jean-Marie Bigard pour la journée de la femme, le timing est pas bon, mais c'est pas grave. Et dans le film, donc Arthur et Jean-Pierre, vous êtes des croque-morts un peu au chômage, d'ailleurs c'est bizarre de dire un peu au chômage, ça n'existe pas, c'est comme un peu mort, ça n'existe pas, à part la carrière de Julien Lepers, je veux dire, c'est très bizarre. Et pourtant, croque-mort, c'est l'un des seuls métiers où a priori il y aura toujours du boulot. Je veux dire, et puis d'où te vient la vocation? Moi, j'adore rouler avec des cadavres dans le coffre. Voilà. C'est comme maquilleur funéraire. Remarquez, au moins le client te reprochera jamais de lui avoir mis trop de blush, mais c'est bizarre. Mais en plus, vous, dans votre coin de France, personne ne meurt. Voilà. Et là, c'est la tuile, j'avoue. Est-ce qu'il y a un pire métier croque-mort? Parce que bon, c'est quand même un métier où tu gagnes ta vie quand d'autres ont perdu la leur. Donc c'est bizarre. C'est comme banquier, au final. Tu gagnes de l'argent quand les autres en perdent. C'est très bizarre. Ça tombe bien que vous veniez aujourd'hui parce que c'est le premier jour des soldes. Et croque-mort, c'est l'une des seules branches du commerce où il n'y a jamais de solde. Hein ? À Cajou, oui, il y a 30% en ce moment. Non, ça, c'était la saison dernière. Cette année, on est plus sur un chêne brut. Voilà. Non, le modèle pain vernis. Alors non, ça, c'est la nouvelle collection, monsieur. Non, elle n'est pas remisée. Attendez un an, sinon. Voilà, c'est très bizarre. La mort, c'est quand même la seule fois où les pauvres ont quelque chose de sur mesure, d'ailleurs, aussi. Non, mais les pompes...
Non, c'est moche.
Les pompes funèbres, ils te vendent des forfaits compris.
Il peut y avoir de l'arnaque sur le bois, hein, c'est ce qui se passe dans le film.
Les pompes funèbres, ils te vendent des forfaits tout compris, mais t'as déjà des gens qui sont venus dire mettez-moi la formule intermédiaire, le couvercle, je m'en fous, je me démerderai. Non, et puis, franchement, chacun fait comme il veut, mais tu regardes le prix des cercueils, c'est entre 500 et 10 000 euros.
Ah bon?
Ouais.
T'as vraiment regardé le prix des cercueils?
Ouais, je vous jure. Ouais, bon, à 500, c'est un sac poubelle.
C'est parce que vous êtes grand, donc c'est peut-être.
Un sac poubelle, c'est aussi bien,
ouais, mais à 500, et c'est toi qui creuses le trou et d'acheter la pelle, c'est une merde. Hein. Franchement, 4 planches, 8 clous, un marteau, tu fonces chez Casto, je fais croque-mort. Attends, je suis pas plus con qu'un autre, j'ai monté 3 armoires IKEA le week-end dernier, a priori. Bon, par contre, faut un grand break, hein, pour transporter le cercueil, mais moi, mon oncle, il a un Kangoo avec les sièges rabattables, on peut se démerder, tu mets en biseau, et le prix des cercueils est 10 000 euros. Qu'est-ce qu'on fait, chérie? On met papy dans de l'acajou avec du cuir embourré ou on change de bagnole? Non, mais sans déconner. Parce que, en acajou, à 10 000 balles, c'est juste un truc pour se la raconter à l'église. Parce que j'ai vérifié, sur le bon coin, il n'y a pas de cercueil, il n'y a pas d'annonce, même urne en porcelaine, très peu servie, une fois, tu vois, je jure, j'ai vérifié hier soir, il n'y a rien. Puis est-ce que t'as le cœur à négocier?
Ce qui est moche, c'est d'être allé vérifier.
Ouais, la soirée qu'on a passée, quoi.
Bah, et puis est-ce que t'as le cœur à négocier quand t'es dans le chagrin? Bah, mettez-moi une pierre tombale, si je rajoute la couronne, les poignets en laiton et une croix en or, vous le faites à combien? Non, mais c'est vrai.
C'est là le problème. Moi, je le dis. On négocie.
Ouais. Moi, je le dis au cas où, pour ma part, vous emmerdez pas avec de la cajou, du bois de cajette, ça fera l'affaire. Filez la différence à une association, parce que le plus dur quand tu fais le voyage longtemps en charter, c'est quand tu te réveilles, et a priori, là, ça sera pas le cas. Allez, bonne journée.
Merci, Tom Villa.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
Arthur Dupont et Jean-Pierre Bacri. Ce binôme fonctionne extrêmement bien. C'est un trio, hein. Il faut quand même pas sortir Olivier Gourmet de votre histoire, même si vous vous retrouvez presque une bonne partie du film à huis clos dans ce corbillard. Alors, c'est une espèce de road movie à un moment en tout cas, mais c'est vrai que le problème, le point de départ, c'est en effet cette entreprise dans une ville perdue au milieu d'un problème climatique où il fait particulièrement froid. Pas de mort, rien, pas de boulot, pas la possibilité de payer Edouard Zweig, c'est ça le Zweig?
Edmond
Zweig, ouais. C'est E-E-Z sur vos vestes, c'est ça. Et se retrouve dans l'obligation de ne plus vous payer en disant ça va pas être possible, voilà, il n'y a pas de boulot, je vous paye pas.
Vous supprime les téléphones.
C'est ça, rends-moi mon portable et arrête de faire le plein d'essence ou arrête de la laver tous les deux jours, on part du corbillard. Et ensuite arrive la bonne nouvelle, c'est-à-dire un mort. Et là,
alléluia.
Et là, c'est l'aubaine. C'est issu d'un roman, on en a parlé hier, Leïla. C'est extrêmement drôle, c'est vraiment de l'humour froid, de l'humour noir.
Dans tout l'humour belge aussi un peu.
Dans tous les sens du terme. Ouais, ah, côté, c'est arrivé un peu près de chez vous, tout ça. Ouais.
C'est doucement macabre.
C'est drôle, c'est ça.
Voilà, c'est ça. On se dit, tiens, comment on va pouvoir rire de ça? Parce qu'on a forcément une petite limite par rapport à la mort et au malheur des autres. Et vos personnages sont tellement à la fois soit déprimés, dépressifs ou complètement enthousiastes quand on voit votre personnage, Arthur Dupont, qu'on se dit, tiens, mais quel est cet objet mystérieux, ce road movie funéraire, hein, en gros, on passe quand même la moitié du film dans un corbillard.
C'est vrai.
Non mais alors rire de la mort. D'abord, est-ce que c'est rire de la mort ou c'est rire du désespoir? Parce que ils sont tous désespérés pour des raisons différentes les uns et les autres finalement, quel que soit leur âge.
Oui, enfin, le personnage d'Arthur il est pas encore désespéré. Moi,
il le deviendra avec votre comportement et ceux des autres.
Il le deviendra, mais enfin bon, je vais pas dire la fin du film. Mais enfin disons c'est celui qui a le plus d'ouverture quoi. Moi, je suis sur genre j'ai terminé les deux tiers de ma vie en gros, puis je commence à me préoccuper beaucoup de la mort. Ça me fait énormément chier de vieillir, donc je me regarde les rides tous les matins. Enfin, je suis très...
Très belle coiffure. Je tiens à saluer le look que vous avez. J'avoue que cette coiffure-là...
Oui, j'avais une coiffure, oui. Ouais.
Elle est...
Ouais, bah oui.
Elle a dû être rare dans votre carrière de
comédien.
Oui,
elle est rare, et c'est marrant parce que je vais répéter l'opération, puisque le film qu'on a écrit avec Agnès, qui s'appelle Place Publique, et qu'on va tourner en été, là...
Vous avez des cheveux.
Je joue un vieil animateur en perte de vitesse.
Pourquoi vous me regardez?
Non, mais je déconne. Mais c'est vrai. C'est vrai que je joue un vieil animateur
en
perte de
vitesse. Je sais.
Enfin, surtout un mec qui se préoccupe de beaucoup de vieillir et qui a un très joli postiche, qui sera encore plus fourreux.
Oui, mais ça nous parle, Jean-Pierre.
Et qui doit gérer sa chute de notoriété dans le monde de la télé ou
voilà, c'est ça, qui s'aperçoit qu'il est plus dans le coup et Dieu sait pourtant qu'il... Elle est trash, son émission, qu'il met du cul, tout ça, mais ça... mais ça ne suffit pas. Toutes les recettes commencent à se barrer un peu en...
Mais comment j'ai déjà envie de le voir, celui-là. Mais revenons à Grand Froid.
Film d'anticipation.
C'est un film, c'est pas un doc, hein, c'est un film.
Et votre personnage, Jean-Pierre Bacri, passe son temps à chercher son épitaphe. C'est le...
Oui, il cherche, oui. C'est ce qu'il pourrait dire de lui.
Il a un petit carnet.
Ça m'a fait beaucoup de peine quand j'ai lu ça. Ce mec qui cherche un adjectif et qui demande à tout le monde, qu'est-ce que vous diriez de moi
De gentil.
Oui, voilà. Machin était un homme... Il demande, et puis les gens sont complètement interdits, style qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme adjectif pour ce mec-là. Et puis j'en ai pas moi-même de parce que, voilà, ça m'a ému.
Ce qui est fort, c'est qu'il y a beaucoup de silence, vous jouez beaucoup avec les regards, avec un discours intérieur. J'ai trouvé ça passionnant, la musique du film, parce qu'il y a... Enfin, moi, j'ai ri de certains regards et de certains silences. Ça doit être Arthur Dupont jouissif de jouer comme ça, de renvoyer la balle et le regard à Jean-Pierre Bacri, dont c'est la spécialité.
On s'est beaucoup amusé.
Bah oui, parce qu'en fait, c'est justement dans les non-dits, dans la manière dont ils se voient tous les deux, dont ils se découvrent, parce qu'en fait, ils font connaissance pendant le film, pendant ce road movie là, un petit peu, pendant cette pause. Ils font connaissance, ils se connaissent pas très bien au début du film, mais là ils creusent un petit peu la connaissance de l'un et l'autre.
Ouais, et vous, dans vous les silences, c'est un peu le minot aussi qui apprend à lui, c'est le taulier, il vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire.
C'est c'est la hiérarchie, lui c'est mon supérieur, mais après, donc ça c'est à l'échelle du travail, de la pompe funèbre, mais à l'échelle de la vie, avec des sujets comme la mort, qui est un peu voilà le sujet du film, chacun a à apprendre de l'autre. Et chacun un petit peu se jauge, se pose des questions. Et moi, Eddie, dans le film, je vois Georges avec justement cette angoisse qu'il a de la mort qui arrive. En tout cas, c'est cette, voilà, c'est un peu.
Mais c'est pas que la mort, si je peux me permettre. C'est pas. Oui, évidemment.
Oui, mais la mort, en fait, c'est un décor.
C'est un prétexte. C'est un prétexte, mais c'est aussi bien. C'est la loose. Ouais. On n'a pas de boulot. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir du boulot? C'est le regard des uns par rapport aux autres. Chacun se posant des questions sur qu'est-ce que je vais devenir moi. Je fais quoi de ma vie? Est-ce que ma vie est pourrie
oui,
ou
mais
pas?
Quand, enfin... Parce qu'en fait, quand je dis mort, c'est la vie. C'est comment on voit sa vie. Non, mais c'est ça. Je sais que c'est pas très drôle, mais en fait, ça l'est.
Moi, je ris
mais ça l'est beaucoup parce que justement ça rend les personnages pathétiques, ça les rend touchants parce que ça les rend vrais et il n'y a pas plus drôle que quelqu'un qui est vraiment sincère et vraiment sensible et vraiment pathétique ou vraiment angoissé.
Mais c'est vrai que la mort c'est un décor, c'est un prétexte comme vous dites parce que En fait, ce qui est important, c'est le, c'est que ces deux personnes commencent à se connaître et à se lier même. Enfin, je dirais l'un et l'autre. Et puis qu'il se crée quelque chose entre eux. Et je reviens sur les silences. Les silences, ça fait la comédie. Je veux dire, enfin, pour moi, un bon acteur comique, c'est un acteur qui sait prendre des temps. Je trouve que c'est comme de la musique. C'est-à-dire que le silence fait partie de la musique, quoi.
C'est une question de rythme. Et pourtant, souvent dans la comédie, au cinéma, en tout cas, ce sont les points de montage qui aident à la comédie. C'est le rythme des plans de montage. Or là, la réalisation aussi prend son temps dans les situations, dans les paysages, dans la manière dont c'est filmé.
Et je trouve que c'est incroyable, ce mec qui fait son premier film. Et je trouve que c'est maîtrisé,
Gérard Potonnier.
Je vous dis, c'est incroyable pour un mec qui fait son premier film. J'étais vraiment cueilli en voyant le film.
Le film en scope, déjà visuellement, c'est un objet.
C'est un côté western avec sa grande rue centrale.
Comment vous acceptez, désert, avec tout ce que vous faites, d'aller justement sur un premier projet aussi lugubre soit-il en toile de fond? À quel moment on dit oui?
Le texte était là. Hein, quand on a lu, tout le film était là.
Vous avez lu le scénar ou le roman?
Le scénar. Je lis pas les romans. Je lis pas les choses dont c'est adapté, parce qu'après j'ai tendance à mettre mon grain de sel, à dire pourquoi t'as pas gardé cette scène, c'est dommage que... Donc je deviens plus casse-couille qu'acteur.
Donc
je préfère lire le scénar, et effectivement le film était écrit, les dialogues, la drôlerie était là, le côté macabre, humour noir et tout était là.
Et les silences dont vous parlez y étaient aussi? On voyait justement cette espèce de rythme comme ça, avec des silences, de la contemplation, et puis ces textes-là bien écrits, bien tac au tac. Ça y était déjà.
Il y a le côté aussi rapport au patron, avec deux employés que vous incarnez. Il y a aussi le novice avec celui qui a tout vu dans le métier. On peut le transposer dans n'importe quel cadre professionnel aussi, de se dire le côté un peu humiliant comme ça du patron qui décide justement de rends-moi le portable, tu n'y as plus le droit. Il est formidable.
J'adore.
Formidable. Et tous les autres rôles dits secondaires aussi sont super, que ce soit la famille du défunt ou le curé, l'homme d'église.
Sam Carman, avec les deux enfants de cœur, qui sont deux jumelles en réalité.
C'est des filles, en plus j'ai vu ça au générique. C'est deux garçons dans le film, mais ce sont en fait des filles
belges, footballeuses, mignonnes comme tout.
Footballeuses?
Elles sont footballeuses, elles adorent le football.
D'accord. Une est goal et l'autre.
Une goal et l'autre attaquante.
Je crois que vous avez bien suivi leur carrière. C'est formidable. Est-ce que j'ai tout le casting? Oui, alors à part Olivier Gourmet, Arthur Dupont, Jean-Pierre Bacri, Sam Carman,
Philippe Duquesne,
on l'a dit. Philippe Duquesne qui fait peur.
Qui fait peur.
Wim Valert aussi, Simon André, Marie Berthaud, Féodore Atkin, et Françoise Oriane qui joue une dame qui...
Féodore Atkin, on ne peut pas vous dire ce qu'il joue. Autrement, on écoute le film.
Merci.
Julie Corbie.
Françoise Oriane étant une veuve qui vient régulièrement vous voir après avoir enterré son mari. On se demande si vous faites pas un peu des relations publiques pour une future cliente, tellement elle est fragile.
C'est un peu ça.
Et vous prenez son pouls. Je crois que c'est dans la bande annonce.
Il y a tellement personne dans ce village-là que elle va là où il y a du monde, et il se trouve qu'il y a un restaurant chinois et une pousse funèbre.
Ouais, un restaurant chinois qui vient d'être acheté par un mec qui connaît rien du tout à la cuisine chinoise. Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, ça s'appelle Grand Froid. Ça sortira le 28 juin et ça fait froid dans le dos. C'est aujourd'hui 28 juin? Ça passe à une vitesse. Me dis pas que vendredi c'est la fin de la saison.
Non, on le dit pas. Ça saurait, tu serais fatigué.
Et c'est un film très très drôle. Leïla, vos oreilles ont sifflé quand on vous annonçait la venue d'Arthur et de Jean-Pierre.
Oui, et quand je pense à vous, Jean-Pierre, je pense à votre élégance.
Ah bon ? Je voulais dire un truc. Les hasards, les coïncidences des nominations font que Jean-Pierre Bouvier est nommé avec moi ce soir. Et il se trouve que c'est le type qui m'a donné ma chance il y a des siècles. Et qui m'a appris les deux ou trois trucs essentiels que je sais sur le métier d'acteur. Je voulais lui rendre un petit hommage.
Voilà, vous avez reçu le Molière du meilleur comédien dans un spectacle de théâtre privé. Voilà, c'est la catégorie officielle pour les femmes savantes de Molière, mise en scène par Catherine Yégel. Ouais. Et lors de votre prise de parole pour cette cérémonie, ce que vous avez dit, c'est merci à quelqu'un d'autre.
Ben oui, parce que c'était bizarre, c'est hasard, quoi, de dénomination. Enfin, je répète ce que j'ai dit sur le plateau, mais c'est vrai que j'ai commencé. Il m'a fait jouer mon premier spectacle, il m'a filé plein de rôles. Sganarelle dans Molière, dans Don Juan de Molière, dans Ruy Blas, j'ai joué dans César de Bazan, enfin il m'a fait jouer plein de trucs. Et il avait un chic pour dire les alexandrins qui me passionnait, la façon dont il jouait ça, et j'ai tout pompé sur lui. Vraiment, il m'a beaucoup aidé dans mon métier d'acteur, en me donnant 2-3 ficelles qui sont toujours les miennes maintenant et que je dispense quand je peux à un acteur qui a envie de m'entendre.
Voilà, justement, c'est le voyage inverse maintenant, c'est vous qui transmettez, vous avez la sensation aussi de vous dire, tiens, moi aussi on m'a donné ma chance,
oui.
Donc je me dois d'être aussi ce passeur-là dans
oui,
mon métier.
Oui, mais moi je transmets complètement anecdotiquement, quand je tombe sur un acteur qui est disposé à écouter mes conneries, ben voilà, je lui dis. Mais Bouvier, c'était un directeur de troupe, il avait une troupe, quoi. Il a fait jouer plein de spectacles, il a donné sa chance à plein de gens.
C'est quoi le chic
d'un acteur? Là, chic, ça m'a ému, quoi.
Le chic d'un alexandrin, quelle est votre définition de ce chic-là?
Bah, c'est-à-dire qu'il le rend... Bouvier, c'est ça qui m'a donné envie de jouer comme lui. Enfin, les alexandrins, c'est qu'il...
Il en fait de la prose?
Il rend la chose... Voilà, exactement. Mmh. Il rend la chose vivante. Il ne se préoccupe pas de la rime, il se préoccupe du sens. Mmh. Ce qui fait que tout d'un coup, les rimes, on les entend quasiment plus, mais on s'en fout, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il n'y a pas de quoi se mettre à genoux.
C'est vrai qu'il y a un côté musical.
Il y a des trucs qui riment.
Il y a un côté musical qui peut être embêtant dans les alexandrins.
Oui, il y a un côté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, où on peut dormir assez vite. alors que si on se préoccupe du sens, tout d'un coup, on joue le sens et on s'arrête où le sens s'arrête. Je sens qu'on doit passer à la suite.
Non.
Pas du tout.
Parce que non, c'est exactement ce que je voulais entendre, parce que c'est vrai que nous, quand on est spectateur, on se dit, on comprend pas la mécanique, on sait pas comment le travail se fait pour des comédiens, et on trouve que quelque chose est très
gna 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 g
faire jouer par des enfants.
Et ça coule de source. Eh ben, pas tant que ça. Ouais, je te donnerai deux, trois noms. Je te donnerai deux, trois noms de gens connus où on est surpris.
Allez-y.
Et.
C'est vrai, il a raison. Allez-y, qu'on se rend compte.
Il fera ça vendredi, ça sera la fin, il fera ça vendredi.
Non, ça sert à rien d'être méchant. Je préfère consacrer du temps aux gens qu'on aime.
Ça sert à rien d'être méchant, c'est pas mal.
C'est une bonne morale. Et on poursuit avec vous, Arthur Dupont. Quand je pense à vous, Arthur, je pense à l'épopée d'un homme. C'est un peu l'Odyssée version monde de la finance.
Comment t'as fait pour te foutre dans une merde pareille?
Ils verront bien qu'on m'a laissé faire.
Ouais, t'as une preuve?
On m'a laissé faire. C'est pas suffisant comme preuve? Mais j'ai pas touché à ce putain de fric, il est dans les caisses. J'ai pas pris un centime pour moi.
Entrer à la Société Générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs.
Bon, y a un nouveau trader qui intègre l'équipe.
L'esprit d'équipe, avec une dernière recommandation, sortez des sentiers battus.
L'Outsider de Christophe Baratier, où vous incarnez Jérôme Kerviel. Alors là, c'est non seulement du jeu de comédien, mais c'est une personne qui a existé. Et c'est aussi une affaire qui a pu faire polémique. Comment est-ce qu'on s'empare d'un homme, enfin d'un personnage, d'un rôle, d'un homme qui existe et d'une affaire qui pose encore des questions? On peut se demander si c'est être soutien de Jérôme Kerviel ou pas en l'incarnant.
Alors moi, on m'a proposé déjà dans un premier temps de passer des essais pour le film.
Ouais.
Et rien que venir pour les essais, j'ai hésité parce que je me suis dit, j'y connais rien à cette affaire, sauf ce que je vois sur les chaînes d'info ou ce que j'ai pu lire, mais je suis pas avocat, je suis pas juge, je suis rien, et je sais que c'est un sac de nœuds. Après, j'ai lu le scénario m'a plu, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'humain là-dedans que de volonté de faire un film à charge ou à décharge, c'était juste un film sur un être humain, voilà, qui est empêtré dans une affaire, d'ailleurs il a sa responsabilité dedans, et le contexte a sa responsabilité aussi. J'ai passé les essais.
On voit le côté humain, on le décharge de quelques problèmes, puisqu'on dit justement que l'erreur est humaine, on humanise ce qui a pu se passer.
Le fait est que c'est un humain. Ouais. Donc ça, c'est une vérité que le film ne révèle pas. C'est un humain. Donc si on respecte la phrase l'erreur est humaine, ça s'applique à tout.
Ouais.
Hitler est un humain. Enfin, là, j'exagère, mais.
Alors, merci de dire que vous
exagérez. Non. Bien sûr, j'exagère.
Accumuler les erreurs.
On est d'accord. Non. Mais ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, c'est que.
Trop tard, Arthur.
Ainsi
s'achève votre carrière. Merci. C'était Arthur Dupont. C'était sa dernière.
Non. Ce que je veux dire par là,
c'est que.
Non. Ce que je veux juste par là, c'est que. C'est un humain, point. Mmh. Maintenant, le film, moi, ce qui m'a plu dedans, quand je l'ai lu et quand j'ai passé les essais, c'est qu'il y avait juste un piège qui se tend en acceptant des règles de la Société Générale, il y a un contexte, il y a le plus 1, le plus 2, le plus 3, le plus 1, et plus on s'éloigne en plus, plus on ne connaît même pas les gens qui sont en haut, et eux ne vous connaissent pas. Par contre, il y a des règles un peu tacites, comme ça, des trucs un petit peu officieux, on vous dit, ah, tu peux faire ça, mais...
Tant que ça marche,
mais Jérôme Kerviel, il se trouve que, moi je le connais pas personnellement, mais ce que le film dit de cet homme-là, c'est qu'il n'a pas d'intérêt personnel. Mmh. Et c'est un peu son drame. Je ne dis pas qu'il a raison de tort, c'est juste son drame, parce que les autres qui avaient les mêmes règles du jeu que lui avaient tellement d'intérêt personnel, d'enrichissement personnel, ce but-là, de partir à la retraite à 37 ans, que lui, il ne s'est pas donné de limites. Parce que la règle pour un trader, c'est les limites. C'est savoir s'arrêter pour ne pas perdre, mais gagner. Même si on gagne un tout petit peu par jour, si on gagne 100 € par jour, c'est bien. Tac, tac, et comme ça, on avance. Lui, il n'avait pas de limite personnelle, parce que pas d'intérêt personnel.
Zéro enrichissement,
parce que c'est comme s'il n'existait pas derrière cette mission qui s'est donnée.
Et c'est ce qu'il y a de plus fou, c'est d'avoir entendu ces sommes-là, ces milliards-là, en disant, le mec, il n'a pas pris un centime
ouais.
pour ça.
Mmh. Ouais.
Et c'est un très beau premier rôle. Moi, je vous ai trouvé formidable dans ce film, Arthur.
Bah, merci. Et Christophe Baratier est un très bon directeur d'acteur. Après, on aime le film ou pas, etc. On aime ce cinéaste ou pas. Mais en tout cas, moi, en tant qu'acteur et ayant travaillé
cette
avec
lui... Cette direction était agréable.
Ouais, au front, comme ça.
En tant qu'humain, ça a été agréable.
En tant qu'humain ouais.
Faut bien prononcer.
Sur un tournage.
Le film de Gérard Potonnier, son premier film, s'appelle Grand Froid, avec Jean-Pierre Bacri et Arthur Dupont, qui sont nos invités jusqu'à midi. Celle que nous avons invitée aujourd'hui. Down on my knees, Ayo. 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 Ayo est notre invité avec un nouvel album qui arrivera en octobre. Ben, je suis amoureux. Celle qui publiera son album en octobre nous offre ce titre en avant-première. Ça s'appelle I'm a Fool et c'est en live dans la bande originale. Allez. Bon.
So I act like a clown. My heart beats faster when I look at you. I want to play cool, but I'm just not cool. I'm clumsy, I'm nervous. I feel like a thing. I even pretend that I don't know your name. I'm a fool. Thank you. was so amazing. I just can't stop gazing at you. You're so fascinating. Why am I so confused? You're so amazing. I just can't stop thinking of you. You make me feel like I'm 10 years old. I'm such a fool for you. I'm a fool for you. I'm a fool. I am a fool for you. I'm a fool. I am a fool for you. I'm a fool for you. My heart beats faster. My heart beats faster. My heart beats faster. My heart beats faster.
Ayo dans cette bande originale avec cette nouvelle chanson qui s'appelle I'm Fool. L'album ne sortira que début octobre, mais vous l'avez avant tout le monde sur Inter. Mais quelle douceur.
Oh,
merci, merci, merci Ayo.
Les tous amoureux là, je pense.
Arthur Dupont, Jean-Pierre Bacri, Ayo, je fais les présentations. Puisque vous êtes auteur, compositeur, interprète, actrice, productrice, tous les titres sont imaginables. Maman aussi, ça doit jouer. Ça doit compter dans la créativité. On a beaucoup parlé, je vais le faire rapidement, du parcours entre l'Allemagne, le Nigeria, la France, l'importance de Paris dans votre carrière. Sauf que là, cet album, c'est Brooklyn qui a été important. Il fallait partir, il fallait un autre endroit pour travailler.
Non, en fait, c'était seulement juste pour être vraiment maman. C'était pour quitter un peu la musique et tout, pour parce que mes enfants sont toujours voyagés avec moi, ils sont partout avec moi.
Ils sont même dans les loges jusqu'à 2h du
même
matin.
Exactement, on a que tu sais.
Oui, je sais.
D'ailleurs, donc, les services sociaux voudraient nous parler. Il y a un problème.
Pas encore, donc il faut...
Ah non, c'est vrai. En même temps, on peut dire, c'est dingue, les enfants devraient être couchés, et de l'autre côté, on peut dire, c'est une maman formidable parce qu'elle est présente
tout avec
et tout le temps avec eux.
Ouais. Ouais, et là, c'était vraiment... J'étais maman seulement et... Ouais. J'avais pas envie de voyager et tout. Je voulais juste être là pour eux, pour avoir un peu la stabilité. Un tout petit peu, quand même, l'école. On était juste à côté de l'école. Et donc, après, quand même, c'était pas. Je suis devenue un peu dépressive parfois. Parce que je peux dire, beaucoup de respect à toutes les mamans qui ne voyagent pas, qui sont seulement des mamans, qui sont à la maison, qui font tout pour leur maison. C'est un travail, mais c'est incroyable. Et j'ai que du respect pour ça. C'est énorme.
Parce que vous avez eu du mal à vivre cette situation-là.
J'ai pas, je peux dire, je suis pas aussi fort comme beaucoup d'autres mamans. Moi, je peux faire mieux sur la route avec les enfants et tout dans l'avion et je sais pas. Là, ça va. Mais à la maison, parfois, c'est peut-être pour ça.
C'est installé le studio dans la chambre. Voilà, le studio s'est installé dans la chambre. Ayo se traduit par joie. Là, quand on écoute I'm a Fool, on est plutôt dans le blues. On est plutôt dans le questionnement, justement. C'est une chanson d'amour. Souvent, les chansons ont un point de départ intime.
Oui, oui, je crois.
C'est un bout de votre vie dans cette chanson.
C'est un bout de ma vie dedans. Mais en même temps, pour te donner la vraie histoire, c'est une chanson que normalement c'est quelqu'un qui m'a demandé d'écrire pour. En fait, c'est Jean-Philippe qui m'a demandé d'écrire une chanson pour une jeune artiste de 19 ans. Jamais dans ma vie, j'écris pour d'autres artistes parce que c'est toujours très personnel. Qu'est-ce que je fais? Donc, je me dis, mais une fille de 19 ans, qu'est-ce qu'on va écrire pour une fille de 19 ans? Et donc, mon fils, à cette époque-là, il est revenu de l'école. Il a dit, maman, je suis en amoureux avec une fille. Je vais pas dire le nom parce que je vais avoir un problème après. Et il était tellement en amoureux. Et je me souviens que moi, j'étais en amoureux la première fois dans ma vie. Et les papillons et tout ça. Et donc, les chansons, je vais l'écrire parce que à cause de mon fils qui m'a parlé de ça.
D'accord, et comme une première histoire d'amour. Exactement. Avec je suis fou, mon cœur bat de plus en plus vite.
Exactement.
Et c'est toute cette émotion avec, et ce qui est fort, c'est que l'émotion est dans la douceur et la fragilité de la musique aussi, sur une nappe de rêve.
Parce que c'est devenu, après tout ça, c'est devenu les chansons quand même pour mon petit là qui vient de naître, il y a 12 semaines maintenant, et quand j'étais enceinte, pour moi c'était encore, c'est les papillons, c'est l'amour pur, tous les enfants sont différents, quand on pense qu'on on connaît déjà, on est maman, mais ça change toujours, c'est encore une fois, je suis tombée en amoureux avec ce petit homme que j'y regarde, et c'est quand même ma vie, c'est un amour incroyable, je sais pas quoi dire.
Sur cet album qui arrivera en octobre, il y a également Elle a quel âge cette chanson? Parce qu'elle a déjà, elle a déjà existé, elle a déjà été chantée.
3 ans.
Elle a 3 ans.
J'ai l'écrit quand Mike Brown il était tué en Ferguson. Et quand j'ai l'écrit, j'avais pas de maison disque. Et je voulais faire sortir parce que je pensais que c'était important à cette époque. Mais malheureusement, je peux dire, c'était même pas dans les moments, parce que depuis il est mort, il y a beaucoup plus de choses qui sont arrivées là et juste là.
Et d'actes racistes et d'agressions et.
Tout ça, ouais, et les polices qui.
Et dans, voilà, dans cette chanson, il y a. C'est d'abord un cri d'injustice, d'incompréhension, de se dire, mais dans quel monde vit-on, c'est ça?
C'est exactement ça. Parce que je crois que, et c'est pas juste un appel aux victimes, quoi, parce que c'est un peu dédié aux mères, aux, tous les mamans qui ont perdu leur fils à cause de brutalité de la police et tout. Mais c'est surtout pour inspirer les gens de faire des changements, parce que je crois aujourd'hui le monde est assez grave et il faut qu'on utilise des plafonds comme ça, comme ici aujourd'hui, pour utiliser, d'inspirer les gens de faire des changements.
Vous croyez que la musique peut changer le monde? Une chanson peut changer le monde?
Je crois qu'une chanson ne peut pas changer le monde, mais une chanson peut changer l'acte de quelqu'un. Une chanson peut t'inspirer de faire quelque chose de différent comme avant. Une chanson peut te toucher au l'endroit où personne t'a touché. Elle peut te donner des nouvelles idées. C'est un peu comme une... C'est spirituel, je trouve. Ça peut te donner la force, ça peut te faire pleurer.
Comment va s'appeler...
C'est trop chaud.
Comment va s'appeler l'album en octobre? Il a déjà un titre, l'album, en octobre. Le titre de l'album, ça sera quoi?
J'ai pas de titre. Peut-être tu as des idées, Nagui.
Il a toujours des idées, mais ce n'est pas des idées.
Mais cette émission, la bande originale, alors non.
Tu as vu comme j'ai que des amis, c'est ça. Tu as remarqué.
J'ai pensé peut-être seulement à Ayo, parce qu'après, on prend des temps, on se dit quel titre, peut-être juste Ayo.
Très bien. Sur l'album, il y aura également... C'est vrai qu'il y a des chansons qui ont été enregistrées sur un téléphone?
Eh oui, celle-ci.
Mais comment on enregistre sur un téléphone? Faut m'expliquer.
En fait, j'ai acheté un microphone microphone, on dit comprimé, c'est ça? Un petit microphone
de jour.
Oui, miniature, ouais. Mais c'est quand même assez fort, ce microphone.
D'accord.
Et,
compressé, peut-être.
Compressé, oui, ouais. Avec l'interface de Apogee, l'Apogee Duo. C'est j'ai branché tout sur mon portable et après j'ouvrais mon piano dans mon petit appartement et j'ai enregistré le piano et j'ai loupé le piano sur mon ordinateur.
Donc mis le piano en boucle sur
exactement,
l'ordinateur,
ouais.
En chantant.
Exactement. D'accord. Et après j'ai programmé le beat et tout ça.
Le rythme.
Oui, le rythme, merci.
Fais attention
le
à ce rythme. Que tu dis, s'il te plaît. Tu seras au bouffe. Tu seras au bouffe du Nord.
Il est incorrigible. Vous avez dit qu'il faut pas qu'il choisisse le bon album.
Ça, c'est
trop
bien.
Faut pas qu'il choisisse le bon album.
Et pour moi, c'est grave, Nagui, parce que moi, je pense en français, donc je prends mon temps
aussi,
quand même de traduire. Et là,
mais moi aussi, je pense en français. Du 24
au 28
octobre. C'est fini, oui. Du 24 au 28 octobre, elle sera au bouffe.
J'en peux plus, vivement la fin de la saison.
Au bouffe du Nord, c'est Ayo qui était accompagné de Marine.
Je sais pas si c'est la fin du parcours pour lui non plus, mais
il est venu nous offrir I'm a Fool. C'est Ayo qui revient tout à l'heure. Merci Ayo, à tout à l'heure.
Bravo.
voici l'humeur de Frédéric Silis.
Ah, nouvelle.
Enfin.
I see trees of green.
Ouais, on dirait pas comme ça. Hein. On vit dans un monde merveilleux, Nagui. C'est ma dernière chronique de la saison.
C'est ça qui est merveilleux ?
Oui. On reçoit Jean-Pierre Bacri, mon acteur français préféré, et Arthur Dupont, que je ne connaissais pas avant de voir le film et que je trouve extrêmement sympathique. Ah, en même temps, je suis sûr que vous ne me connaissez pas non plus, hein, et je ne me vexe pas pour autant. Voilà. On vit dans un monde merveilleux où la France compte de nouveau sur la scène internationale. Oui. Comme l'a dit Richard Attias, le mari de Cécilia, la marque France est de retour. La France est une marque. Alors ça donne rien en plus, si ce n'est la satisfaction d'être dans la merde dans un pays qui a la cote. Voilà, parce qu'on a un président jeune, beau, dynamique, comme un conseiller bancaire. Le mec tombe la veste pour jouer au tennis dans un fauteuil roulant et bim, t'as toute la presse française qui est excitée comme une famille de poux au salon du cheveu. On a un premier ministre barbu qui a le swag. Ouais, Edouard Philippe, le gars, il fait de la boxe, il écrit des romans un peu sexes qui vont bientôt être adaptés au cinéma entre deux conseils des ministres. Vous imaginez? T'écris quoi, Edouard?
Rien, Jean-Yves, des bricoles.
Fais voir que je lise. Angela saisit alors Emmanuel avec la fougue et la passion d'une guerrière valkyrie. Elle le plaqua contre le mur de son bureau couvert de dorures, témoin de tant de luttes de pouvoir. Elle approcha son visage congestionné par l'envie et lui dit dans un français impeccable « Fais à mon corps ce que tu as fait à la main de Donald. » Non, on vit dans une époque formidable où, dès la rentrée, des Français, pour la plupart rougis par le soleil, découvriront un tout nouveau code du travail qui mettra leur morale au diapason de leur épiderme. Dès septembre, les Français découvriront le CDI de projet. Le nouvel outil du gouvernement pour résorber le chômage. Alors qu'est-ce que c'est un CDI de projet? Eh ben c'est comme un CDD, sauf que t'as pas la date de fin. Ah oui, le CDI de projet, c'est une femme ou un homme qui te dit « Je t'aimerai, le temps que ça durera ». Voilà, le CDI de projet, c'est une nuit avec Daniel Morin. Tu penses que c'est pour la vie? Et en fait non, c'est pour une nuit. Rappelons que pour le MEDEF, les primes de précarité qu'on paie avec le CDD, mais c'est vulgaire comme un coup d'un soir qui veut que tu le rappelles. Les prud'hommes pour le MEDEF, c'est indécent comme une femme qui réclame une pension alimentaire. Le CDI de projet, c'est le pôle emploi géré par Tinder. Car c'est ça le frein à l'emploi en France, le côté midinette des salariés français. Les Français qui peuvent pas s'empêcher de s'attacher à leur boulot, à leur entreprise, il faut les voir quand tu leur dis que c'est fini.
Tu me vires, mais t'es déjà, mais tu me connais à peine.
Mais t'as cru quoi? Que j'allais te passer un CDI au doigt et t'aimer jusqu'à la mort, petit prolétaire? Mais aie au moins la dignité de ne pas faire de scène. C'est tellement vieux jeu, cette conception du couple salarié-entreprise. C'est pourtant clair ce que l'on va vivre. C'est un mai 68 libéral. Le marché du travail européen, c'est une partouze. Est-ce qu'on s'échange nos noms dans une partouze? Non. Est-ce qu'on se rappelle après une partouze? Non. Là, il y a la musique. Chômeur. Cessez d'avoir la prétention d'avoir une vie décente. Cessez d'avoir l'ambition de vous extraire de votre condition sociale. Cessez de vouloir des trucs que la publicité veut vous vendre alors que vous n'avez pas les moyens de vous les offrir. Vivez les yeux baissés. Et surtout, mourrez sans bruit. Vous aurez au moins la satisfaction d'avoir donné du travail au croque-mort.
Ah bah. Quel enchaînement et grand froid. Merci. Les croque-morts justement sont là. Donc Arthur Dupont et Jean-Pierre Bacri avec Olivier Gourmet entre autres sont dans Grand Froid, un film qui a été tourné d'ailleurs en Roumanie, de ce que j'ai pu
Pologne.
En
Pologne, pardon.
Belgique et
à
Pologne,
la frontière ukrainienne.
Dans le véritable grand froid. Vous avez souffert de la météo ou pas?
Dans le véritable grand froid, mais plus au sens figuré, si vous voulez. En fait, on est allé chercher la neige et le grand froid, et il faisait pas si froid et il n'y avait pas beaucoup de neige. Donc on a.
Il
a
fallu. Dis pas qu'il y a des effets spéciaux avec de la neige.
Absolument.
Sans blaguer.
Absolument. Ah ouais. Il a fallu en rajouter.
Ça se voit pas.
Non, bah non. C'est le principe de l'effet spécial, c'est que voilà. C'est que
il
tout
a fallu en rajouter partout. Non, c'est l'endroit qui était un peu désert. J'ai rien contre la Pologne, mais c'est comme si un Polonais allait tourner en Corrèze pendant.
Alors vous n'avez rien contre la Corrèze.
Alors que j'ai rien contre la Corrèze. Non, mais je veux dire, c'est juste un endroit désert où on rencontrait personne. Heureusement, on est entre nous et on riait bien.
Je n'ai rien contre la Pologne, c'est comme si tu allais manger à Guéret dans la Creuse, si tu veux. Et là, bing, on s'est fait deux copains. En tout cas, c'est un très bon film, très, très drôle, avec cette... encore une fois, on parle d'humour noir, il y a un côté très blié aussi, par moments comme ça, l'humour belge dont vous parliez tout à l'heure. Mais finalement, pas la peine de le définir, c'est quelque chose qui donne à réfléchir, mais qu'on peut aussi regarder comme un spectacle avec ce ping-pong verbal. Et je voudrais que vous nous parliez de la bienveillance de Jean-Pierre Bacri, parce que vous l'avez employé dans une interview, et je suis totalement d'accord avec vous, c'est pas l'image que l'on a souvent de Jean-Pierre, mais c'est un bon camarade.
Ah ben oui, complètement. Bah oui, mais, bah si.
Non, mais on n'en parle pas tout le
mais
temps.
T'as
c'est
quoi,
pas quoi,
l'image, le mec qui
le
quicheton que t'entends partout.
Voilà.
Il fait la gueule.
Non, c'est ça. Quand je dis on,
donc
c'est
forcément,
ça.
Forcément, il envoie chier les gens.
Voilà.
Râle,
voilà. Or, c'est le bon camarade bienveillant.
Bah oui, mais c'est juste un très bon camarade qui fait son boulot, qui est content d'être là, même si on est en Pologne, à la frontière ukrainienne. Mais le fait d'être là, acteur, de jouer un scénario qu'il a choisi, qu'il aime.
Il se passe quoi entre les prises, par exemple, quand on est
on rigole, on a beaucoup ri,
Et on là, s'entend pas mal, donc
c'était un ping-pong juste de conneries et puis des fois de silence, justement comme dans le film, très nourri et puis avec un petit regard en coin qui fait et juste un œil de connivence comme ça et qui nous faisait beaucoup rire.
Vous aviez forcément une définition de Jean-Pierre Bacri avant de le connaître. Vous aviez
on a tourné ensemble.
On a tourné au bout du compte ensemble.
Oui, au bout du compte, c'est vrai.
Il jouait le.
J'avais pas de définition avant. J'avais ce que j'avais de lui dans les films, ce que je voyais de lui dans les films, et je sais que c'est un acteur. Donc il y a le prisme du film, du metteur en scène, du montage, du personnage, du texte. Donc c'est pas lui, c'est ce qu'il incarne là. Quand j'ai fait plus ample connaissance avec Jean-Pierre, j'ai rencontré quelqu'un de, c'est ce que j'ai dit, de bienveillant, de sympa, de très bon camarade.
Et d'incarner une espèce, je dis bien, de victime aussi dans le film. C'est-à-dire, vous êtes paumé, vous êtes victime un peu des événements, victime de l'autorité, victime de ce qui se passe. C'est vous qui rebondissez en fonction des différents événements dans le film avec la parfaite tête du mec paumé qui est dépassé par les événements. C'est jouissif ce jeu-là.
Bah, ce qui était jouissif, c'est de jouer quelqu'un de candide, donc qui est toujours ouvert à l'inconnu, à même ce qui est impossible. Il est toujours un peu ouvert à ça. Il est dans un contexte il est très passif. On est arrêté au milieu du départ et de l'arrivée. On est arrêté là avec Jean-Pierre, son supérieur. Et oui, il subit. Il est témoin de d'une vision de la vie et d'une espèce de pathétisme un peu qu'a le personnage de Jean-Pierre Georges, mais il est toujours très dans la vie, lui.
Ouais, il n'est pas totalement paumé.
Il n'est pas victime.
Il est un peu chahuté quand même par les événements.
Les personnages sont victimes.
On est chahutés tous les deux. On vit des trucs qu'on n'attendait pas du tout. Ouais.
Sauf que moi, je trouve mon personnage, il va prendre dans tous les événements qu'il vit une occasion de se poser des questions et d'essayer de trouver des réponses à des questions qu'il dépasse. Et plus les questions le dépassent, plus je pense qu'il y prend du plaisir.
Comme la question magique de se demander si on va rester autant de temps sous terre que le temps où on n'est pas né. Moi, quand vous posez cette question-là,
c'est pas exactement ça. Est-ce qu'on est plus longtemps pané ou plus longtemps mort.
Voilà. Et là,
qu'est-ce que t'en penses?
Ah ouais. Ouais, j'y ai réfléchi en fait.
C'est Joël Egloff, ça il faut remercier Joël Egloff qui est l'auteur et le dialoguiste du film.
Il réfléchit.
Voilà. Oui, parce qu'il faut préciser que le romancier, l'auteur du roman, Joël Egloff, a participé aussi à l'adaptation et au dialogue.
Il a écrit les dialogues.
On va évoquer en musique ce qui a pu se passer dans vos différentes carrières. Arthur Dupont, par exemple, vous avez écouté.
C'est un nom qu'on dirait
inventé. Qu'est-ce que
c'est? Notre-Dame de Paris. À l'époque, ouais.
On l'a entendu, celle-là, quand même.
Comme tu me déçois.
Salope,
j'avais 10 ans, bordel.
C'était en 99. Vous jouez à Bobino, en fait.
Ouais, je jouais à Bobino avec les Salgosses.
Salgosses, c'est une école de théâtre qui fait des spectacles, en plus.
Ouais, c'est une école et
très performante.
Et une compagnie de théâtre professionnel d'enfants.
Ouais, mais qui font des spectacles de dingue. Il y a des perles dans cette troupe-là. Et le spectacle est une parodie des Misérables.
Ouais, exactement. C'est une comédie musicale inspirée des Misérables. Donc avec, c'était un peu fou. Il y avait le morceau Staying Alive dedans même qui arrivait là avec C'est... Enfin, bref, c'était fou.
Vos parents, votre maman est professeure, institutrice. C'est elle qui vous a donné le...
Inspectrice de l'éducation nationale. Pardon. Parce que là, si elle vous entend...
Elle n'est pas institutrice.
Elle était, mais elle a fini inspectrice de l'éducation nationale.
D'accord.
Ça va la vexer un peu.
Mais avec tout le respect que je dois à votre maman, évidemment, je préfère le côté institutrice que l'inspectrice. Ah ben ça, c'est mon côté fils de prof. J'aimais pas les inspecteurs. Chaque fois que maman disait il y a un inspecteur qui vient, je ne l'aimais déjà pas, l'inspecteur qui venait juger ma maman.
Oui, mais quand l'instit devient inspecteur, il comprend pourquoi il faut corriger les
instits. Lui, il est peut-être plus tolérant, c'est ça.
Ouais,
c'est elle qui vous a donné le goût du théâtre et du jeu ?
C'est pas elle qui m'a donné le goût, c'est elle qui m'a amené dans une école de théâtre. Mais quand j'étais petit, j'avais 8 ans, et je faisais du tennis, je faisais du piano, et en fait, il y avait plusieurs choses à faire autour de chez moi, c'était en Seine-et-Marne. Et donc, du coup, j'ai fait un peu de théâtre, et puis j'ai aimé ça, j'ai pris le goût.
Dans ces années-là, 99, Jean-Pierre Bacri, vous recevez 2 Césars dans la catégorie meilleur scénario et meilleur acteur pour un second rôle dans On connaît la chanson. Vous aviez déjà eu un César avec Agnès Jaoui pour le meilleur scénario d'un air de famille. On parlait tout à l'heure avec Leïla des Molières. Vous êtes un habitué de ces cérémonies et même souvent récompensé. On s'en lasse un jour, on prend du recul ou finalement... On aime ça parce que c'est aussi la reconnaissance de ses potes et des gens du métier.
Bon, on s'en lasse pas parce que la vanité.
Il y a un réglage de micro, hein, c'est pour ça.
Ça. Ouais. On s'en lasse pas parce que la vanité humaine fait qu'à chaque fois qu'on vous donne une, vous savez que Napoléon disait qu'on a besoin de hocher pour quand il a inventé la Légion d'honneur. Et voilà, je trouve que ça ressemble à ça. C'est un hocher. On est content. Ce jour-là, on se croit. On se croit le calife. Je sais pas si je devrais dire le calife en ce moment, mais enfin.
C'était comme
mais
pour
et
la croix.
Et puis ça passe. Ça
les
passe.
Rois du monde, restons dans les comédies.
Voilà, les rois du monde. Voilà.
Et puis, ça apporte quelque chose dans le boulot ou pas ?
Et puis le lendemain, il y a une grosse déprime parce qu'on se dit finalement c'est un peu rien tout ça. Voilà. Donc on prend la mesure du truc et finalement c'est pas que ça lasse. Je vous dis, on est toujours content, mais c'est la vanité qui
professionnellement,
qui devient de plus en plus obèse.
Ça n'apporte rien à cette vanité qui est de plus en plus obèse. Est-ce que ça apporte des contacts ? Est-ce qu'il y a des producteurs qui d'un coup se disent là, ça va être bankable, on va accepter tel ou tel projet ?
Sur ce plan-là, oui, bien sûr. Enfin, surtout quand un film marche fort, évidemment qu'il y a des producteurs derrière qui sont d'accord pour financer le suivant.
Ça aide à ça au moins.
Voilà, ça aide à ça, oui.
Dans les années 2005-2006, Arthur Dupont, dont nous écoutons beaucoup la musique, écoutez Daft Punk. Là, vous l'écoutiez pour sortir la nuit entre potes, vous l'écoutiez...
Non, c'est par plaisir de retomber dessus, de réécouter, voilà, c'est... Et même des fois, juste de chantonner la chose, et puis du coup, on se dit, ah putain, ça me manque, et du coup, on y
retourne. Vous avez découvert un côté hip-hop de Jean-Pierre Bacri ?
Ah oui, clairement, oui.
Ah oui ?
Ah oui, clairement, oui. Ah oui, bah Jean-Pierre adore le hip-hop, mais il en parlera beaucoup mieux que moi.
Non, c'est vrai que j'aime vachement ça, vraiment, beaucoup.
Mais qui ?
Mais surtout le rap américain.
Ah ouais.
Et surtout, jusqu'à il y a 10 ans de ça, parce que ça a été cancérisé par
le autotune,
le R&B et le white, toutes ces conneries qu'ils font maintenant, et qui vraiment, qui nihilise, qui dégueulasse tous les morceaux. Je veux dire, avant il y avait du son à l'époque des Dre, de
Dr. Dre, ouais.
Voilà, il y avait du son, c'était gras, c'était beau, c'était bien foutu. Là, maintenant, ça devient vraiment de la
soupe.
La soupe.
Votre premier grand rôle au cinéma, Arthur, c'était Chacun sa nuit.
Ouais.
De Pascal Arnold et Jean-Marc Barr. On ressent quoi, un premier rôle ? Est-ce qu'on s'en souvient comme d'une première histoire d'amour, comme d'un premier diplôme ? Est-ce que c'est un jour qui restera gravé ? Est-ce qu'on garde le clap du film en souvenir par superstition ?
En fait, je me souviens de ce film-là parce que c'était ce film-là, plus que c'était le premier rôle.
Ça joue pas plus que ça, un premier rôle. Ça marque pas plus que ça. Non, mais si c'est non, c'est non.
Il y a une satisfaction.
Il y avait un gros flip aussi, parce que c'était la première fois qu'il y avait autant de responsabilités et puis autant de partitions.
Pas décevoir. Oui.
Et pas décevoir, et puis surtout satisfaire le metteur en scène pour coller vraiment au rôle et être légitime. Ouais.
Vous, Jean-Pierre, dans ces années 2005-2006, pour être précis, vous jouez Schweck de Bertolt Brecht, où vous devez chanter.
Oui, j'en
vous deviez,
chantais.
Vous
oui.
deviez chanter. Vous avez du plaisir à chanter? Vous aimez chanter?
J'aime beaucoup chanter. Et d'ailleurs, dans le film d'Agnès, je chanterai une fois ou deux. Mais enfin, ça me ridiculisera plutôt. Je veux dire, ce sera pas une réussite.
Et quand vous chantez, vous chantez.
Un animateur qui chante mal.
Vous chantez.
Ah. Et encore une fois, je vous vise pas du tout. Non, mais je veux dire, il se trouve que c'est à vous que j'en parle, mais vous savez bien que
Vous savez pas comment il chante. Ouais. Vous savez pas comment il chante.
Non, je sais pas comment il chante. Et puis il est pas en perte de vitesse. C'est un animateur qu'on voit partout et qui est en plein.
Trop. On est d'accord. Elle chante
pas du tout parano.
Elle chante pas du tout. Les parano ont des ennemis. Hein.
N'oubliez pas les paroles. Oui. Vous faites cette émission.
Oui, absolument.
Je vous ai vu la dernière fois. Là-dedans, je me suis dit, putain, il fait cette émission aussi. Non, mais je veux dire, vous en faites une autre d'ailleurs. Non,
oui, absolument.
Ah ben voilà, c'est pour ça que je me suis dit, putain, ce mec il bosse quoi. C'est juste un conseil, aucun jugement.
Merci.
Enfin, il est beaucoup présent, bosser.
Elle va chanter avec votre permission, évidemment, si vous l'autorisez, c'est Ayo.
Et alors,
elle avait initialement prévu une reprise, mais elle a changé d'idée au dernier moment et je n'ai pas pu savoir ce qu'elle va nous chanter. Donc, je vais encore moins travailler maintenant, je vais juste dire Ayo pour une reprise. On va la découvrir ensemble. Ayo en live.
You make me feel
avec cette reprise d'Aretha Franklin, Natural Woman. Et on est très en retard pour l'info, il est midi sur Inter.
Et on retrouve Nagui pour la bande originale, la
Merci
suite.
Merci beaucoup Sébastien Hazard qui reviendra vous informer toute l'après-midi sur Inter. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Leïla Kadobou-Dadi.
Bonjour à tous.
Tom Villa.
Bonjour.
Frédéric Sigrist. Daniel Marin.
Bravo Daniel.
Ayo viendra en live tout à l'heure à nouveau dans cette émission et nos invités sont Arthur Dupont et Jean-Pierre Bacri. Ils incarnent les personnages, je sais pas s'ils sont cyniques, s'ils sont paumés, si finalement ils sont extrêmement gentils, généreux. Vous ferez vous-même votre idée en allant voir Grand Froid. En tout cas, c'est un très bon film qui sort aujourd'hui, réalisé par Gérard Potonnier. C'est son premier film. Est-ce qu'il a réalisé des courts-métrages que vous aviez vus avant? Dans ces cas-là, est-ce qu'on voit le travail d'un réalisateur avant
mais
d'être
oui, mais il a fait un moyen-métrage avant qui s'appelait L'Étourdissement, dans lequel jouait Arthur Dupont.
Et Philippe Duquesne. Et Marie Berthaud.
D'accord, donc oui, c'est le prolongement finalement de ce moyen-métrage, oui, c'est là où on voit que ça sert. Voilà.
Et le moyen-métrage était l'adaptation d'un bouquin de Joël Egloff également. Donc du coup, c'est
une
le famille. Prolongement donc,
il y a une
avec
cohérence
l'auteur.
Là-dedans, ouais. Une cohérence.
C'est une famille. Ce Grand Froid, est-ce qu'il y a une...
On est premier au HAL.
Félicitations ce matin. Très bien, félicitations. Non, mais c'est mérité. Parce
ruez-vous
qu'il est...
là-bas à 14h, s'il vous plaît.
Ruez-vous.
Non. Est-ce que vous pensez qu'il y a une. Je ne vais pas parler de morale, parce que tous les films n'ont pas forcément une morale, mais quelles sont les valeurs qui sont portées par le film?
Ah, ben ça, alors c'est la première fois qu'on me pose cette question. Ouais. Alors, quelles sont les valeurs qui sont portées par ce film? Peut-être la valeur travail. Non, je ne sais pas du tout. Je vous laisse imaginer quelles sont les valeurs qu'on défend.
Parce que tout à l'heure,
il y a une dame qui nous a dit en projo que ça lui avait fait beaucoup de bien de rire de la mort. Mais on.
Je suis d'accord.
Voilà.
Ouais, ça démystifie un peu ce côté. Voilà. On n'en parle pas, on ne rit pas.
Il y a un tabou un peu
ça.
Sacré
ouais.
comme ça. Et...
Putain, j'aurais dû le trouver, moi.
Non, mais Jean-Pierre, pour la prochaine émission. Voilà, exactement. Merci. Pour la prochaine émission, je te la laisse.
Mais oui, voilà, ça démystifie la mort. Il faut démystifier. Un maximum.
On est dans une ville. Oui, on est dans une ville totalement.
Il va pas me laisser parler.
On est dans une ville totalement.
Il ne veut pas me laisser parler.
J'aurais relu.
Mais après, producteur fait... avec.
Non.
Ça, je dois le dire.
C'est bientôt la fin de la
ça,
saison.
Je voudrais juste repitcher le film pour ceux qui nous rejoignent à midi 10, dire que c'est l'histoire d'une entreprise de pompes funèbres qui n'a pas beaucoup de clients, donc évidemment pas beaucoup de morts. Voilà, c'est la crise. On peut pas payer les croque-morts. Faut trouver des solutions. Quelles sont les solutions? On va quand même pas aller jusqu'à tuer quelqu'un. Par contre, dès qu'une petite vieille traverse la rue,
elle traverse.
On attend, on regarde s'il y a de la circulation.
On espère.
Il y a un camion qui passe, on se dit, ah, peut-être que là,
c'est maintenant.
Bon. Ouais. Et ben non.
Le changement, c'est ça.
C'est
extrêmement drôle. Salaud. Évidemment, lorsqu'il y a un décès, c'est la fête au village. Et évidemment, on voit aussi ce que l'on a. Malheureusement, quand on va à des enterrements de membres de la famille ou de copains, on regarde des fois les employés des pompes funèbres en se demandant si eux ont de la compassion ou pas. Ils sont là dans leur costume, ils ont un regard un peu dans le vide. Ils viennent nous saluer. On sait pas trop ce qu'ils pensent. Et là, vous jouez bien le rôle de ceux qui regardent, qui veillent à ce que toutes les bougies soient bien éclairées, à ce que on est prêt, on y va. Vous faites des signes de la tête. Il y a des codes comme ça entre gens des pompes funèbres. C'est extrêmement réglé, bien
réglé.
Est-ce
qu'on serre la main? Est-ce qu'on fait la bise, c'est dans la bande-annonce.
Est-ce qu'on dit bonjour? Est-ce qu'on dit bonjour, tout simplement?
Bah non.
Parce que c'est un jour bon. Oui,
on dit jour.
Mais jour.
Mais on fait pas d'erreur.
Et d'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui que, d'ailleurs, il y a une sorte de tweet du Robert qui disait que croquer, en fait, c'est un mot qui anciennement voulait dire faire disparaître. Moi, je pensais que le croque-mort, c'est celui qui croquait le gros orteil pour vérifier.
Moi aussi, je croyais que c'est ça.
Et en fait, initialement, croquer veut dire faire disparaître. Déjà, tu dis un croque-note pour quelqu'un qui joue au piano, par exemple, et qui saute des notes.
Ouais, c'est vrai.
Donc, quand on te dit t'es à croquer, tu peux te poser aussi des questions.
Ouais. C'est celui qui fait disparaître, c'est ça.
Okay. Moi, je me méfie.
C'est
le Robert.
La différence entre toi et moi, c'est que moi, on me dit rarement t'es à croquer, alors je pense que tu as dû l'entendre beaucoup plus souvent que moi. Voici, et c'est là
où
et nous avons le compte à disparaître.
Tu veux
voici Daniel Morin.
Merci. Ça ne gâchera pas ma bonne humeur, car j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, les amis. Oui, ça me met en joie, parce que c'est pas tous les jours. Une nouvelle qui peut facilement se caser dans la rubrique loisirs, escroquerie et art de vivre. Si vous voulez profiter des beaux jours en Ile-de-France avec l'impression de douceur de vivre, de dolce vita, celle que procure la douillette sensation d'avoir les pieds dans le sable, eh bien cette info est pour vous. À partir de demain, jeudi, une terrasse éphémère ouvrira à Levallois. Oui, une terrasse installée pour l'opération Été Levallois, où vous pourrez venir boire un verre ou manger un morceau en regardant le soleil se coucher. Bonne idée. À partir du jeudi 29 juin, ne ratez pas l'événement Été Levallois. Grâce au maire de la ville, le glorieux Patrick Balkany, Levallois prend des airs de station balnéaire. Les pieds dans le sable fin d'une compagnie BTP proche du maire de la ville, vous flânerez avec à la main un verre d'alcool d'une marque amie de monsieur Balkany. Pour tous ceux qui veulent se ressourcer, se reconnecter avec eux-mêmes, un cours de yoga est accessible les dimanches matins et les lundis soirs. Des cours dispensés par un maître yogi qui vous enseignera la méthode de la maîtrise à la Balkany ou comment rester zen avec 5 mises en examen au cul. Si vous avez un petit creux, des paninis seront à déguster, de délicieux paninis dont les ingrédients, bien sûr, seront fournis par un traiteur de la mairie de Levallois-Perret. Notez, par ailleurs, que si vous tombez sur monsieur le maire Patrick Balkany, n'hésitez surtout pas à l'interpeller. Pour un selfie, un autographe, un conseil fiscal, une place en crèche, une subvention de la ville, etc., etc., il saura répondre à toutes vos attentes contre une petite enveloppe solidaire de 10 000 euros. Patrick est hyper généreux. Si vous le souhaitez, vous pourrez également demander à Patrick de participer aux ateliers Bien Vivre de la ville. Les ateliers Bien Vivre sont animés par Isabelle, Isa, la femme de Patrick, une artiste dans le domaine de l'optimisation fiscale. Des ateliers ouverts à tous qui reçoivent fréquemment les visites surprises de Patrick qui vient raconter des anecdotes savoureuses de dissimulation en tout genre. Patrick, qui une fois par mois donne une masterclass dans les caves de la mairie. Le mois dernier, le sujet était corruption passive, mode d'emploi. À la rentrée, la première masterclass aura pour thème le blanchiment. C'est élégant. Les ateliers d'Isabelle et les masterclass de Patrick ne coûtent que 360 000 euros l'année, payable en transfert express sur les Caraïbes via Singapour et Genève. Pour cet été, soit l'été de la joie, venez participer à l'été Levallois. Bon, vous aurez compris, c'est quand même le super bon plan de cet été. Alors, je résume, c'est offre demain, la terrasse Levallois. Quant à l'adresse, et je vous jure que c'est vrai, et l'événement n'en a que plus de valeur, l'adresse est Été Levallois, Levallois-Perret, 47 quai, Charles Pasqua.
c'est vrai.
Alors, rien que l'hypothèse de serrer la louche de Balkany au 47 quai Charles Pasqua, au niveau sensation, je trouve que c'est mieux que d'avoir un rôle dans le parrain. À demain.
Daniel Morin.
Ça fait une sacrée pub quand même.
C'est pas cool, c'est pas cool parce que la vanne était déjà écrite dans l'adresse, tu vois. Ils font ton boulot.
Je l'ai gardé à la fin.
Ils font tout ton boulot. Dans les projets, vous en avez parlé tout à l'heure, Jean-Pierre Bacri, il y a ce film qui s'appelle Place publique. Alors vous dites c'est le film d'Agnès Jaoui, vous l'avez quand même co-écrit.
Bien sûr, évidemment.
Elle le réalise.
Elle le réalise, mais on écrit tout ensemble, oui, bien sûr.
Ce Place publique, donc l'histoire d'animateur de télé sur déclin qui ne supporte pas sa chute de notoriété.
Et de cheveux d'ailleurs.
Et de cheveux, mais c'est que un portrait de la télé ou ça va plus loin?
Non, ça parle de tout. Ça s'appelle Place publique parce que ça parle de tout, des réseaux, de la façon dont on, dont chacun montre son cul, ses vacances, sa nouvelle chemise.
Le buzz, quoi. On cherche à faire parler.
Voilà, exactement. Ouais.
Quant à vous, Arthur, parmi tous les projets, d'abord, est-ce qu'il y a eu des films que vous avez déjà tournés qui vont sortir?
Il y a un film de Philippe Leguet que j'ai tourné il y a quelques mois et qui sort en
Normandie nue.
Ouais, qui sort l'année prochaine, ouais.
D'accord. Avec François Cluzet et François-Xavier de Maison.
Grégory Gadebois aussi. Enfin, ouais.
Encore
FX, ouais. Ouais, François-Xavier. Ouais. Et, vite, avançons. Vite.
Et Nagui, Jean-Pierre, je crois, dans le nouveau Nakash Toledano.
Yes, absolument. Oui. Ça s'appelle Le sens de la fête. C'est très, très, très drôle.
Qui sort quand?
J'aime beaucoup le film. Le 4 octobre.
Le 4 octobre.
Jean-Paul Rouve, Gilles Lelouch, plein de gens.
Ouais. Voici le brouillon de culture de Leïla Kadrouladi pour Arthur Dupont et Jean-Pierre Bacri.
Jean-Pierre, Arthur, je vous sors de la promo, un petit bol d'air, c'est notre brouillon de culture, histoire d'apprendre à mieux en connaître.
Trop cool.
C'est vrai, on est content. Eh bien c'est parti, on commence par un premier son pour vous Arthur.
J'ai un âge où les choses se corsent, des fois j'ai l'impression d'aller en Corse à la nage. L'horizon est bien trop loin et moi je suis bêtement perdu au large. Mais heureusement au-dessus de moi les nuages m'offre un spectacle de soutien, m'insuffle l'énergie suffisante pour avoir la force de gagner du terrain. Rien n'est perdu d'avance, tout est encore à découvrir. Quelle chance d'avoir la vie devant.
Il n'y a pas que Jean-Pierre qui chante. Là, c'est K.A., Kevin et Arthur, votre groupe, en live au réservoir avec la chanson « Quelle chance ».
Ouais.
C'est une passion depuis toujours, la chanson.
Il a l'air tout gêné là.
Ouais.
Et
puis c'est surtout
oui, parce que
il est osé. C'est super beau.
Mais non, mais pas. Enfin, bon, merci. Mais moi, la musique, ça m'accompagne depuis que je suis tout petit. J'ai à la maison, j'ai mon piano que j'avais à 8 ans, que mes parents m'avaient acheté à 8 ans.
Une guitare dans la loge tout le temps.
Et j'ai toujours mon piano chez moi. Il a 25 ans, quoi. Et donc, du coup, ouais, c'est une passion, c'est mon plaisir, c'est ma respiration, ça m'accompagne tout le temps, ouais.
Donc, chanter dans un rôle, par exemple, ça serait un truc complètement possible et envisageable.
J'ai chanté dans Bus Palladium. J'ai chanté dans Bus Palladium. J'ai chanté dans Mobilhome de François Pirot aussi, où il y avait une petite chanson dedans. C'est un pont qui se fait malgré moi, en fait. C'est-à-dire que Bus Palladium, Christopher Thompson cherchait des acteurs.
Qui est lui-même, d'ailleurs, musicien, réalisateur, chanteur brillant.
Et il cherchait des acteurs qui pouvaient aussi chanter. Mmh. Et moi, je suis venu avec ma guitare et je lui ai chanté un morceau.
De qui ?
Je crois que c'était d'Eric Clapton. C'était
Leila ou
Old Cocaine ? Old Love. Et en me disant, bah voilà, je fais ça. Et puis il y avait le texte aussi, bien sûr, il y avait la partie comédie à faire. Et puis il m'a appelé l'après-midi même en me disant, bah écoute, si t'es chaud encore, allez, c'est banco. Et j'étais ravi de le faire.
Et de là faire un projet musical et à vous produire sur scène de façon plus régulière, de fonder, je sais pas, d'être en lien avec un label, d'être distribué, de faire des tournées.
Faute pour l'instant d'avoir essayé. C'est-à-dire que nous, on fait des morceaux, c'est exclusivement français, et dans des styles musicaux qui sont aussi bien afrobeat pour certains morceaux que blues pour d'autres, que valse un peu blues, slam, certains le disent. Mais en fait, j'ai pas pensé en termes de style et de direction artistique sur la totalité d'un album. J'ai commencé à écrire des chansons chez moi avec ma guitare, c'est ce que disait un petit peu Ayo, avec un logiciel où je faisais guitare, basse et puis de la petite percussion sur les genoux avec un micro pour faire un morceau et puis pour pouvoir avoir une bulle d'expression personnelle sans avoir de but commercial ni de le faire écouter au plus grand nombre, pas du tout. C'était vraiment purement de l'expression. C'était le but premier de faire de la musique et commencer ce projet. Et puis après, il y a eu...
Vous le mettez sur Internet, vous en faites une YouTube, ouais.
Pour l'instant, on a mis sur SoundCloud, sur YouTube, il y a quelques vidéos qui tournent. Et on a un petit peu cherché à contacter des festivals, tout ça, mais si vous n'avez pas de label ni de tourneur, les festivals disent oui, mais il fallait nous contacter il y a 3 mois. Il dit, mais oui, on l'a fait il y a 3 mois, mais vous venez juste d'ouvrir le mail. L'année prochaine. Donc la prochaine fois, on les contactera 8 mois avant, histoire qu'ils l'ouvrent quelques mois avant.
L'appel est lancé. On poursuit avec vous, Jean-Pierre.
I'm not asking you not to go down there, Laura. I'm telling you.
And what makes you think you have that right?
Because I love you, isn't that enough?
No, Steve, I'm sorry.
All the kids talking behind my back.
Is it true?
No!
Are you black?
No, I'm as white as you!
You're lying!
I'm not!
Alors, ça,
c'est un extrait de la bande-annonce du film Le Mirage de la Vie de Douglas Sirk avec Lana Turner.
Ah oui.
Et ça, c'est un film que vous avez vu très jeune.
Très, très jeune. Oui. J'étais encore en Algérie. J'avais 7 ou 8 ans. Et c'est le premier film que j'ai vu qui m'a beaucoup fait pleurer. Donc, je m'en suis souvenu assez longtemps.
Vous nous racontez l'histoire en quelques mots.
C'est une espèce de mélo terrible. Terrible mélo.
Vous nous racontez l'histoire en quelques mots.
Je ne sais pas si je m'en souviens bien. Je sais qu'il y a une fille dont la mère est noire.
Une métisse.
Ouais. Et elle-même est métisse. Elle voudrait imaginer que tout le monde la considère comme une blanche, mais je crois que sa mère vient un jour dans la classe, ça l'humilie complètement, que tout le monde voit sa mère noire. Et je sais qu'elle a une amie qui est une espèce de petite blonde parfaite.
C'est ça, c'est cette histoire d'amitié.
Enfin, quand je dis parfaite, c'est évidemment complètement ironique, mais parce que elle-même est très très belle. Mais voilà quoi. Je me souviens de ça en gros.
Et vous en serviez, je crois, enfant, pour reprendre votre sérieux en classe.
Oui.
Quand vous aviez des fous rires.
Avec ma sœur, avec ma sœur à table dans certaines cérémonies, enfin dans certaines situations où il fallait rester sérieux et qu'on avait un fou rire qui commençait à se déclencher avec ma sœur, on se regardait, on se disait mirage de la vie. pour récupérer un peu de...
Et ça marche encore aujourd'hui, c'est quoi votre truc? Parce que j'imagine sur un tournage comme Grand Froid, vous deviez vous marrer.
Beaucoup.
Votre rosebud.
Alors c'est quoi votre petite astuce pour ne pas vous marrer?
Ben, ça, c'est plus. C'est
une question... Il est fort quand même pour pas se marrer, moi, je trouve. Hein.
Oui, enfin, c'est une sorte de conscience professionnelle qui fait que tout d'un coup, on sent qu'on va tourner, que voilà, on se calme. Enfin, parfois, ça déborde un peu, mais enfin, voilà.
Et pour finir, je vous fais un cadeau à chacun d'entre vous. C'est le petit guide de survie en pays réac de Jean-Michel Thénard, avec des dessins de Wozniak aux éditions du Seuil. On va le faire passer. Merci. Alors, pour donner beaucoup. Un exemple, juste rapidement, à H, on trouve Homer, forcément. Et Homer, l'auteur, bien entendu, la définition est la suivante. Il a dessiné sa Pénélope en héroïne. Fillon l'a repeinte en une assistante qui fait tapisserie. Exemple de petite saillie comme ça à utiliser éventuellement lorsqu'on fait face à des réacs.
Merci beaucoup. Si, et il l'a, ça c'était pour Jean-Pierre Bacry et Arthur Dupont. Le film s'appelle Grand Froid, sur lequel il y a aussi cette musique-là, qui revient régulièrement et qui est bien dans une ambiance à la Wim Wenders. Ou à la Gérard Potonnier, il faut lui rendre son nom et son savoir-faire. Ça s'appelle Grand Froid, c'est sorti aujourd'hui et on vous encourage à aller le voir. L'album ne sortira qu'en octobre, mais elle vient nous le présenter à Yo, celle qui sera au Bouffe du Nord du 24 au 28 octobre, puis en tournée partout en France. Mais elle est d'abord ici à Inter avec Paname en live.
Jack of hearts, it's written in the stars, we'll never be apart. I kure, I cry, wagadugu, I'm telling you the God knows truth. Whenever I go someplace new, I can't help but think of you. Panam, Panam, mon cœur est à Paname. Je suis mon âme comme une vraie gitane. Panam, Panam, mon cœur est à Panam. Mais je suis mon âme, je suis une vraie gitane. From the Alto, Père Lachaise, I know every part of you, your worst, your best. And how could I forget sunset at Richemont and crashing at my best friend's place at Rue Alphonse. Always remember La Seine à la Bastille, where for the very first time people were listening to me. I'll always remember the love and blessings I received. That's why I could never turn my back on you and leave. Panam, Panam, mon cœur est à Paname. Je suis mon âme, je suis une vraie gitane. Panam, Panam, mon cœur est à Paname. Je suis mon âme comme une vraie gitane. Panam, Panam, mon cœur est à Paname. Je suis mon âme comme une vraie gitane. Panam, Panam, mon cœur est à Paname. Je suis mon âme. Je suis une vraie gitane.
Trop mignon, trop mignon, trop beau, doux, rythmé. Panam, c'est Ayo. L'album à suivre début octobre, on en reparlera et à voir et applaudir en live. Merci mille fois. Elle a tout pour elle. Tout pour elle. Ouais, exactement. Génial. Exactement. Et plus encore. Plein de bonnes choses et tous nos vœux de bonheur en famille et pour l'album. Merci Ayo. Merci. Merci. Porte-toi bien. Des excuses à présenter également.
Je vous excuse déjà. Désolé pour tous nos auditeurs hitlériens qui ont été quelque peu choqués par la réaction de la bande de gauchos, Bobo Bolcho, à l'encontre d'Arthur Dupont. Qui a l'air plutôt ouvert, hein, question national-socialisme. Merci pour votre ouverture d'esprit. Hein. Désolé pour Nagui qui a découvert ce matin que son biopic sur sa vie d'animateur en bonne course allait être tourné cet été par le duo Bacri-Jaoui. Et désolé enfin pour Jean-Pierre Bacri qui va souffrir sûrement le martyr et se rabaisser cet été en jouant le rôle de Nagui.
Quel enfoiré. En attendant, il y a ce grand froid. C'est Miss Sparrow on the Cliff, le titre de cette BO, parce que la BO est très présente aussi. On parlait des silences, mais la musique met dans cette ambiance grand froid. Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont, Olivier Gourmet, je voulais citer aussi Philippe Vieux, on l'a pas fait tout à l'heure aussi, qui a
Philippe Vieux, ouais,
qui attend désespérément
un des fossoyeurs,
employé, ouais. Voilà, employé de la mairie, également Olivier Gourmet, Féodore Atkin, Marie Berthaud, Philippe Duquesne, Sam Kerman qui est juste dinguissime, Alix Beckert et Clara Beckert, Françoise Oriane, Simon André et Wim Willert, réalisé par Gérard Potonnier, c'est sorti aujourd'hui et vous devez absolument le voir. Ça fait du bien, ça fait un peu peur au début, mais c'est vraiment bien. Merci les garçons,
merci.
Plein de
merci,
bonnes choses. Bravo. Demain, c'est Anne-Elisabeth Lemoine qui sera notre invitée. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour les amis, salut Nagui, salut la bande.
Salut. Salut. Salut.
Ça va pas, j'ai pas de morale aujourd'hui.
Qu'est-ce qui se passe?
Oh, je suis au fond du trou. Puis à grand froid, ça tombe mal, ça me laisse de marbre.
Mais non, ça rafraîchit.
Ouais. Un bon coup de pelle.
C'est un corbillard américain ou français dans le
C'est un Cadillac.
C'est Cadillac. Ouais.
Ah bah c'est donc un corbillard à trous.
Billard à trous.
Corbillard
à trous. Billard à trous. Punaise.
Je suis traducteur aussi.
Merci Daniel.
Je t'en prie.
Heureusement qu'il est là, Daniel.
Mais bon. C'est vrai que, blague à part, Philippe Bertrand, on n'a pas séparé de la voiture qui a un rôle très important dans le film. Très important. Bon, vous n'avez pas vu le film et vous avez posé la meilleure question de la journée.
Je suis sur la bonne piste.
Bonne émission.
Salut les amis.
Ciao.
Salut.
Salut.